Vous écoutez RTL.
Ben écoutez mes enfants, RTL, il est 9h.
Ah bah oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les Rolling Stones ont inauguré hier soir la nouvelle Star U Arena de Nanterre. Steven Vellery a assisté au show, bien entendu. Son compte rendu dans un instant. 15 jours après sa parution, Origine, le nouveau livre de Dan Brown, caracole en tête des ventes. Bernard Lehu a retrouvé l'auteur à Barcelone, où là où se déroule l'intrigue du roman pour une série de confidences exclusives. Et rendez-vous au 3210, puisque nous vous offrirons des exemplaires dédicacés du nouveau Dan Brown. Décidément, vous êtes gâtés hein, sur RTL. Et puis à la télévision ce soir sur France 3, les trajectoire amoureuse de Jane Birkin, Françoise Hardy et Véronique Sanson, dans un programme signé Mireille Dumas. Dites-moi, ça va être passionnant ça, parce que c'est trois personnages. Hein. Mais oui, Isabelle Morelli-Bosque a rencontré Françoise Hardy.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
La musique, pour commencer, c'est l'événement de ce début d'automne. Les Rolling Stones ont donné hier soir le premier de leurs trois concerts à la U Arena à Nanterre. Ils sont en tournée mondiale avec le No Filter Tour. Trois ans après leur dernier passage en France, Steven Vellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez dans la nouvelle salle hier soir pour RTL.
Immense U de 40 000 places où sac à main et briquet sont interdits, vaut mieux être prévenu. La structure conçue par Christian de Portzamparc a des allures de vaisseau spatial. Il est 21h02 quand les riffs résonnent, quatre écrans géants rectangulaires de la taille d'un immeuble s'éclairent et les papis du rock entonnent Sympathy for the Devil. En 2h15 de show, un démarrage en douceur et un écho assez désagréable perturbe le début du concert, mais après tout... Ça n'est que du rock'n'roll, Mick Jagger attrape son harmonica... Just Your Fool, puis Ride Em On Down, extrait de leur disque de reprise blues paru il y a 10 mois. Keith Richards, chemise verte et robe de chambre est plutôt dans le coup. Et oui, une sorte de robe de chambre toute noire, très bizarre. Ronnie Wood précise Charlie Watts, casque sur la tête pour les premiers titres, étonne par la finesse de son jeu. Et Mick Jagger est stupéfiant, en forme olympique. Il tournoie, sautille, gesticule, bondit et blague en français, notamment sur l'inauguration de la salle.
On est tous des vierges ici, hein. J'espère que les nouvelles toilettes fonctionnent.
Et le chanteur de 74 ans agrippe une guitare sèche.
Alors, pour résumer la situation, pas de grosse surprise hier soir, mais en revanche, une seconde partie de concert plus enlevée. Hein, Steven.
Oui, les Stones ont fait l'impasse sur Dancing with Mr. D, inédit en live depuis 1973 et qu'ils chantent depuis quelques semaines. Mais ils déroulent les tubes pour leur 33e concert parisien en 53 ans. Painted Black, puis Keith Richards pique le micro à Jagger pour Happy et Sleeping Away. Le Zébulon du rock revient en veste bleue et t-shirt à l'effigie de son groupe. Miss You, Midnight Rambler, Honky Tonk Woman, Let's Spend the Night Together, choisi par le public, Jagger lance Wesh, je vous kiffe et... Les Stones tirent un peu à la ligne en fin de show, étirant exagérément Brown Sugar ou Jumping Jack Flash. Qu'importe, le plaisir est intact, le moment rare et le public ravi.
C'était énorme. Mick Jagger était à donf.
Chapeau vu leur âge.
C'était génial. Un Mick Jagger au sommet, vraiment respect.
On s'est dit, vaut mieux les voir avant qu'ils soient plus là. Bah, nickel.
C'était parfait pour moi. Toute ma jeunesse.
Mais il a raison, ce monsieur.
En effet, faut les voir avant qu'ils soient plus là.
Faut les voir une fois dans sa vie, les Stones. Ils chanteront encore dimanche et mercredi à la You Arena, c'est à côté de Paris. Le groupe publiera le 1er décembre On Air, une compilation de live enregistrée à la BBC entre 1963 et 1965.
D'accord, Steven, vous qui nous avez ramené si souvent des sons et des extraits de concerts exceptionnels, là c'est le son de la salle.
Ah non, c'est du son piqué d'un live, on va être honnête, on n'a pas le droit de capter les Stones. Mais un live très récent.
Compliqué, Steven Vallery, il dit toujours la vérité.
La vérité.
Voilà, on est là pour comme ça.
Il sera exécuté.
Oui, bien entendu. Mes enfants chéris, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants puisque vous savez que Bernard Lehu a un ami qui s'appelle Dan Brown, il écrit des livres, ça intéresse
et
quelques lecteurs.
Ils boivent le thé de temps en temps.
Ensemble de temps à autre à Barcelone. Tout cela est d'un snobisme absolu. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Vous allez continuer de passer une très belle journée à l'écoute d'RTL, puisque nous allons vous proposer maintenant une rencontre exceptionnelle avec Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, a publié le 4 octobre son nouveau thriller, Origine, dont l'action se déroule en grande partie à Barcelone. Et c'est là-bas que vous êtes allé le rencontrer, Bernard Lehu.
Mais oui.
Dan Brown s'est livré à toute une série de confidences. Mais revenons d'abord sur son dernier roman, dont vous nous aviez parlé il y a très exactement 2 semaines.
Alors, Origine, des gens en tête des ventes, évidemment. Le célèbre spécialiste en symbologie de Harvard, Robert Langdon, cherche à savoir quel secret s'apprêtait à révéler sur les origines et le futur de l'humanité l'un de ses anciens élèves assassiné avant de pouvoir parler, et Dan Brown de nous proposer un nouvel affrontement entre science et religion dans lequel, alors lui, a clairement choisi son camp.
Historiquement, aucun dieu n'a survécu au progrès de la science. Autrefois, les anciens expliquaient que la nature était une création divine, mais nos connaissances scientifiques sont venues peu à peu prouver le contraire. Et dans Origine, je pose cette question. N'est-il pas naïf de croire que les dieux d'aujourd'hui existeront encore dans plusieurs centaines d'années ?
Et vous-même, vous n'avez jamais été croyant ?
J'ai longtemps cru en Dieu quand j'étais enfant. J'ai reçu une éducation chrétienne. Ma mère était organiste à l'église. Mais en grandissant, il m'est devenu impossible de croire en un Dieu qui avait envoyé son fils se faire crucifier. Cela dépassait ma raison. Je pense toutefois qu'il existe des forces supérieures à l'espèce humaine.
Bon, alors voilà, on sait que depuis le Da Vinci Code, Dan Brown n'est pas vraiment en odeur de sainteté auprès des églises. Avec Origine, il persiste donc dans le blasphème pour certains, dans la vérité scientifique pour les autres. Mais c'est ça justement qui le rend en tout cas intéressant.
Et une nouvelle fois, elle situe son intrigue dans des lieux universellement connus.
Alors après Paris et le Louvre, ça c'était dans le Da Vinci Code, Rome et le Vatican, dans Anges et Démons ou Florence, dans Inferno, nous voici donc en Espagne, en particulier à Barcelone, et c'est dans la crypte de la célèbre basilique Sagrada Familia que se dénouera l'intrigue. Alors éclairage sur la méthode Dan Brown. Est-ce qu'il visite les lieux, notamment cette Sagrada Familia, donc est-ce qu'il va voir tous ces lieux dont il parle ?
Yes, absolutely. I visit them. I consider location a character.
Oui, je les visite. Je ne peux décrire les lieux et mes personnages les plus importants que si je me rends sur place pour apprendre. Et puis c'est amusant de faire ça.
Pourquoi ne publiez-vous un roman que tous les 4 ou 5 ans ?
In order to write these books, I need to learn a lot, and that takes time.
Pour écrire un livre, j'ai besoin de me documenter beaucoup. Pour Origine, par exemple, sur l'art moderne, l'intelligence artificielle et la vie politique en Espagne. Ça demande beaucoup de lecture et de voyage, donc ça prend du temps. Je ne suis pas un auteur qui écrit au premier jet. Pour chaque page d'Origine, j'ai rédigé une dizaine de versions avant la bonne. C'est beaucoup.
Bon, et puis alors, il y a une part de mystère autour de Dan Brown.
Ah oui.
Le rôle exact de Madame, son épouse, Blythe, de 12 ans, son aînée. Ils sont mariés depuis 20 ans. La rumeur l'a toujours dit très proche, très investi dans le travail de son mari.
I like mysteries. You know, Blythe...
J'aime les mystères. Blythe est fantastique. Elle a été ma première lectrice. Quand je termine un chapitre, c'est toujours elle qui me lit en premier. Et nous voyageons souvent ensemble. Pour Origine, il est beaucoup question d'art moderne. Et ça n'est pas tellement son truc. Elle m'a donc dit « Débrouille-toi et bonne chance ». Il est aussi question de technologie qu'elle ne connaît pas trop non plus. Et donc, pour ce roman, je me suis senti un peu plus seul que d'habitude. Mais on a passé du bon temps à repérer les lieux.
Donc, on ne sous-entend pas éventuellement que Madame Brownlee écrirait les livres à sa place.
Non, on sous-entend.
Ah, bon, très bien. Alors, Origine, le dernier roman de Dan Brown est dédié à une autre femme, sa mère, récemment décédée.
Oui, et alors malgré sa pudeur et la discrétion dont il entoure les siens, l'écrivain a accepté d'évoquer sa mémoire.
She taught me that you can be faithful and religious.
Elle m'a enseigné que vous pouvez être croyant et religieux tout en étant tolérant avec ceux qui ne le sont pas. C'est sûr que nous ne partagions pas les mêmes convictions, mais nous avons toujours poursuivi notre dialogue. C'est facile de parler avec des gens d'accord avec vous, mais c'est un vrai challenge de le faire quand on ne l'est pas. Je lui suis très reconnaissant pour cela.
Dan Brown est donc en pleine tournée de promotion mondiale pour son nouveau roman. Pense-t-il déjà au suivant ?
J'ai cherché à en savoir plus. Évidemment, ça n'est pas vraiment gagné.
Ça, c'est l'un de mes secrets que j'aime garder. J'ai plusieurs options. Je n'ai pas encore choisi. J'essaye de survivre à la sortie d'Origine. Et je prendrai les vacances pour y réfléchir.
Pourriez-vous écrire un autre roman qui se passerait en France ?
Pourquoi pas ? C'est l'un des grands pays d'architecture au monde. Et c'est évidemment le lieu du Da Vinci Code. J'ai en France un éditeur et des amis merveilleux. Et quand j'avais 13 ans, ma première correspondante était française. Elle vivait à Orly.
She was from Orly. Sylvie Lamassé was her name.
Elle s'appelait Sylvie Lamassé. On s'écrivait des lettres, c'était avant les emails. J'apprenais le français, elle écrivait donc en français, je lui répondais en anglais, et on essayait de communiquer. C'était drôle.
Est-ce que je peux vous faire une suggestion pour un prochain roman en France ? Le Mont-Saint-Michel, voilà un autre lieu chargé d'histoire, de religion, d'architecture, et qui est connu dans le monde entier.
So, I love Mont-Saint-Michel.
J'aime le Mont-Saint-Michel. Je suis allé là-bas assister à un concert, c'était incroyable. Nous n'avons jamais oublié cette soirée. Après le concert, on a réalisé depuis notre balcon que nous étions bien sur une île. L'eau était montée et nous entourait. C'était spectaculaire. L'autre souvenir sympa, nous avions mangé des fromages particulièrement salés, faits, je crois, avec le lait des brebis ou des chèvres élevées dans les prés du Mont-Saint-Michel. J'ai adoré.
Vous êtes diabolique parce que maintenant vous lui suggérez les décors de ses futurs livres. Non, ça ne m'étonne pas de vous.
Comme idée.
C'est une très bonne idée.
Il a découvert les prés salés du Mont-Saint-Michel.
Alors, je préviens tout de suite Sylvie Lamassé d'Orly à l'époque, bien entendu.
Je cherche sur
pageblanche.fr. Vous alliez le faire, je l'adore. Alors voilà, si elle s'est reconnue, elle nous appelle et puis on pourra peut-être la remettre en contact avec son ancien correspondant dans le
pays. Allez, on peut essayer d'arranger le coup.
Oh oui.
Alors, parlons d'argent maintenant. Mm-hmm. Au dernier classement des écrivains les mieux payés au monde, Dan Brown est quatrième avec un revenu estimé en 2017 à 20 millions de dollars. Qu'en fait-il ?
Vous savez, c'est drôle, mais je n'ai pas écrit dans l'idée de gagner de l'argent. Si j'avais voulu en gagner, je serais plutôt devenu banquier. Écrivain n'est pas le métier idéal pour ça. Je ne suis pas quelqu'un de très intéressé par les belles voitures, les jets ou les yachts. J'aime l'art et l'architecture, et avec ma femme, nous avons choisi, avec notre argent, de nous faire construire une maison assez unique. C'est une demeure de style médiéval, tout en pierre, très belle, avec des pièces pleines de passages secrets, de tableaux pivotants, des symboles architecturaux. C'est la maison où nous voulions vivre.
Alors, les lecteurs de Dan Brown se comptent par dizaines de millions, évidemment. Quelle rencontre la plus étonnante lui est-il arrivé de faire avec l'un d'entre eux ?
La plus incroyable, c'est celle avec un prêtre qui m'a interpellé dans la rue. Monsieur Brown, je n'aime pas beaucoup vos livres, mais je dois vous remercier car j'enseigne l'étude de la Bible depuis 10 ans. Les mêmes 8 personnes viennent chaque semaine. Mais la dernière fois, nous avons parlé du Da Vinci Code et la semaine d'après, 400 personnes sont venues. Et ce prêtre a ajouté, je ne partage pas vos idées, je conteste votre livre, mais je dois vous remercier finalement d'avoir favorisé ce dialogue.
Voilà, sacrée anecdote. Hein.
Alors, c'est formidable.
Pour finir, évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de lui demander, c'est ce qu'on demande à tous les Américains qu'on rencontre, qu'on croise aujourd'hui, ce qu'il pense, Dan Brown, de Donald Trump.
Well, it's funny because I was.
C'est marrant, je me souviens d'une émission à Paris au moment de la sortie du film Inferno. On m'a posé la question, que pensez-vous de ce type, Donald Trump, qui veut être président? J'ai répondu, je vous garantis que c'est impossible, je vous donne ma parole que ça n'arrivera pas.
Alors vous, le spécialiste des codes, est-ce que vous avez les clés, les codes justement pour comprendre Trump?
Il
parle un langage qui ne m'est pas familier. Je suis incapable de décrypter son code, j'en ai vraiment aucune idée. J'espère pouvoir un jour.
Est-ce qu'il pourrait devenir un personnage de l'un de vos romans?
Nobody would believe it.
Personne ne peut le croire. Ça m'a traversé l'esprit d'écrire un Trump code, mais c'est totalement impossible, même pour moi.
Even for me. So, that's true.
C'est drôle. Voilà. Donc, le prochain Dan Brown ne sera pas le Trump code. En attendant, son dernier thriller, Origine, est publié chez Lattès. L'entretien de Dan Brown est à retrouver en vidéo sur RTL.fr, là, dans la matinée, le temps que tout ça soit mis en ligne.
Mes petits-enfants, nous vous l'offrons, dédicacé en prime, si vous répondez à la question que vous pose Bernard.
Alors, dans quel célèbre basilique de Barcelone se dénoue l'intrigue d'Origine.
Votre réponse au 32-10 pour gagner Origine, le dernier Dan Brown, dédicacé de la main de l'auteur, surveillé et authentifié par maître Bernard Lehu, huissier de justice.
Exactement.
A tout de suite pour notre soirée télévisée, nos audiences, notre week-end avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Nous allons procéder par étapes. D'abord, ce jingle nous annonce les audiences de la veille avec Médiamétrie. Alors, Isabelle.
Eh bien, Contact est logiquement en tête sur TF1. 4 500 000 téléspectateurs, c'est la moyenne de la semaine dernière. La 3 est deuxième, 3 200 000 téléspectateurs pour Pièce Montée, 14% du public. La vraie déception, c'est pour l'émission politique Marine Le Pen, moins d'1 800 000 téléspectateurs et moins de 8% du public sur la 2, alors que ça a toujours été l'un des plus forts scores de l'émission politique jusqu'à présent.
À titre de comparaison, Edouard Philippe avait fait 3
2 millions, hein,
donc c'est quasiment le double.
Et c'est à peine plus finalement que le match de football sur W9, là, Everton-Lyon, un truc comme ça. 1 600 000 téléspectateurs. Non, je dis ça pour vous énerver.
Oui, 2-1 pour Lyon, justement. Bon, vous avez tout dit
sur les audiences, oui.
Alors on se prolonge dans notre... projette, ce sera plus français, dans nos soirées télévisées du week-end. Alors on va commencer par l'actualité. La déprogrammation de la France a un incroyable talent après l'accusation d'agression sexuelle dont doit répondre le membre du jury, Gilbert Rozon. Isabelle, pensez-vous qu'M6 aurait pu et dû diffuser en fait le programme?
Non. La chaîne a d'ailleurs vite et très bien réagi dès 5h du matin. Moi qui ai vu une partie du programme de cette 12e saison, et je suis d'autant plus triste que ça n'a jamais été aussi bon que cette année, mais c'est un programme drôle, basé sur des boutades, donc on est parfois à la limite, et où Gilbert Rozon, ben, c'est le patron. Il est brillant, il est bruyant, il est omniprésent, et vu le contexte, la diffusion était impossible, impensable, impassable. Il y a par exemple une chanson comique absolument géniale d'une candidate, une post-ado impassible, qui raconte la promotion canapé et les gâteries évidemment fictives qu'elle a dû faire au jury. Donc vous imaginez que dans le contexte, c'est pas diffusable. Assureront à la place Stéphane Plaza et Philippe Etchebest, qui du coup revient en semaine, et ça, c'est la seule bonne nouvelle.
Votre coup de cœur, c'est la spéciale de France 3 que Mireille Dumas consacre aux chanteuses. Alors la triplette est formidable. Jane Birkin, Françoise Hardier et Véronique Sanson.
Moi, j'ai tout adoré. Les extraits, les petits rajouts d'interviews de nos trois grâces, qui sont d'une franchise désarmante. La preuve avec Françoise Hardier que je suis allée voir chez elle. Elle revient sur cet amour, par exemple, qu'elle avait éprouvé sur le tard.
Il n'y a rien eu du tout. C'est pour ça que c'était si fort. Ça a été très utile, ce démon de midi, d'une certaine manière, parce que ça m'a libérée de tout. C'était comme si ça me permettait de tirer un trait qui, je trouve, allait tout à fait avec l'âge que j'avais. À partir d'un certain âge, voilà, il faut se calmer. À partir de là, la vie personnelle que j'ai eue, ça n'a quand même pas été de tout repos. Puis bon, moi, j'ai quand même eu un épisode dans ma vie où on m'a abruti de morphine pendant pas mal de temps. Et du coup, j'ai oublié pas mal de choses.
Elle n'a jamais dévoilé l'identité de cet homme. Maintenant, écoutez cet extrait dans lequel Jane Birkin évoque sa hantise d'être plaquée dès son mariage avec John Barry en 65.
J'avais tellement peur qu'il trouve d'autres personnes plus jolies. J'étais tellement jalouse. J'ai envoyé des pots de confiture à la porte. J'étais hystérique, sans doute, beaucoup.
C'est marrant d'être si jolie et pourtant fragile, donc jalouse. Elle en dit quoi, Françoise Hardy?
Oui, ah non, mais je crois que la jalousie, elle était très partagée et toujours à mauvais escient d'ailleurs. C'est curieux comme les hommes qui sont dans votre vie, enfin moi il n'y en a pas eu beaucoup, mais sont jaloux systématiquement à mauvais escient. Et quand c'est à bon escient, ils se doutent de rien. Voilà. Oui, peut-être parce que Jane et moi sommes d'une génération où la séduction féminine, elle était basée quand même sur les rondeurs. Donc je pense que ça a dû jouer pour elle comme pour moi.
Véronique Sanson, c'est la seule séductrice à assumer du trio, mais oui, quand même, toutes les trois, elles ont toujours privilégié leur vie privée, ben notamment vous, Françoise.
Ah, c'est un fait que pour moi, la vie personnelle est toujours passée avant le reste. Quand j'ai rencontré Jacques Dutronc, donc, enfin quand notre relation a commencé, plus exactement, je ne voulais pas mener la vie que j'avais menée avec Jean-Marie Perrier. Lui voyageait sans cesse, moi aussi. Donc je ne voulais pas revivre ça. Il m'a fallu du temps aussi pour réaliser que si l'autre vous sent trop à sa disposition, il se fatigue un peu plus rapidement.
Eh oui, je te fuis, tu me suis, etc. Autre extrait, Jane face à un journaliste intéressé par son intimité.
Vous êtes mariée à quel âge alors?
17 ans. J'ai épousé le premier type qui m'a demandé.
Il n'avait qu'à demander.
Oui, en plus il m'a fait à manger. Moi j'ai trouvé ça vraiment très gentil.
Tout à fait, entre nous, vous êtes arrivée au mariage...
Intact.
Oui, et Françoise, qui contrairement à Jane et Véronique a eu une enfance privée de tendresse?
Je ne suis pas arrivée vierge à la première relation très importante que j'ai eue, tout simplement parce que j'étais tellement bourrée de complexes que le premier que j'ai semblé intéressé, enfin, j'ai vu ça comme une opération chirurgicale. Bon. Comme ma grand-mère me disait que jamais je plairais à personne, je me voyais un avenir de nonne. Ce qui fait que le premier donc qui a jeté un œil sur moi, je me suis précipitée pour me dire « bon, je ne serai pas vierge ». Quand même, il y a quelque chose de la femme libérée. J'ai commencé, je ne sais pas de gêne, mais à utiliser la contraception à une époque où elle n'était pas encore légalisée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les femmes n'utilisent pas davantage le stérilet. Moi, j'ai utilisé ça toute ma vie et ça a fonctionné. Bon.
Ça fera l'objet d'un autre débat. Et si on parlait pour finir d'avenir, elle qui actuellement écrit sur des mélodies.
Comme je reçois des mélodies, j'essaie d'écrire des textes dessus. J'ai de plus en plus de mal à écrire. Hein. J'ai tellement écrit de textes de chansons. Il n'y a pas 36 thèmes qui m'intéressent. Je tourne toujours autour du même pot. Et je crois que j'ai épuisé la façon de diversifier l'approche de ce pot-là.
Et Thomas?
Ah, mais Thomas, j'ai surtout envie qu'il me parle de ce qu'il fait. Normalement, il devrait préparer un album dans pas longtemps, parce qu'il a un nouveau contrat avec sa maison de disques. Donc, il faut qu'il fasse un album. Donc il court, c'est tellement difficile. Quand j'étais très jeune, on était beaucoup moins nombreux. Il n'y avait pas énormément de concurrence. Alors que maintenant, tout le monde veut chanter, tout le monde veut être acteur, tout le monde voilà, veut être connu.
Voilà, c'est passionnant, riche, foisonnant. C'est donc ce soir sur France 3 à 21h.
21h sur France 3 pour cette rencontre avec ces trois femmes exceptionnelles. Merci Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné dédicacé d'un main de l'auteur, le dernier Dan Brown. Et on accueillera Julien Courbet.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Dites-moi mon petit Dan, soyez rapide, Dan Brown bien entendu, la question qui vous était posée, c'était dans quelle célèbre basilique de Barcelone se dénoue l'intrigue d'origine?
Sagrada Familia.
Voilà.
Gaudi.
Ah ben, c'est
Sagrada
parfait.
Familia.
Je, ça une fois suffit.
Dan Brown himself, c'est chic.
Voilà, vous gagnez le livre si vous nous avez appelé au 3210. Merci à toute l'équipe, on retrouve Julien Courbet.
Comment ça va?
Pardon,
Pardon,
oui, en attendant la Comédie des Boulevards.
Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'adore. Je voudrais que vous transmettiez mes amitiés à Elisabeth Martichoux. Elle ne lâche rien. Vous avez remarqué, 7h50, elle a demandé à Olivier Véran.
Est-ce que c'est juste?
Il n'a pas répondu. 20 secondes plus tard.
Est-ce que c'est juste?
Il n'a pas répondu. 10 secondes plus tard.
Est-ce que c'est juste?
Pour finalement terminer par.
Vous ne répondez pas.
Voilà, donc écoutez. Mais en tout cas, elle a essayé, je peux vous dire. Moi, j'étais accroché
à mon
poste.
J'étais là, moi, j'ai regardé, je tremblais, moi.
Eh bien, bravo. C'est pour ça que c'est son interview qui est la meilleure de France.
Bah, bien entendu.
Mon cher Yves Calvi, je vais vous souhaiter un bon week-end.
Et moi, une très agréable soirée ce soir au spectacle.
Oui, on est reparti ce soir et demain à la Comédie des Boulevards. Qui a parlé? J'ai entendu une voix derrière vous.
Oui, Mademoiselle Morini Bosque. Pas de bon week-end pour nous.
Mais non, vous allez travailler, faire en sorte que M. Calvi arrive reposé lundi pendant que vous aurez bossé tout le week-end.
Eh bien, voilà, vous avez tout
vous
compris.
Vous embrasse, Isabelle.
Bonne émission.
Au revoir.